Vous écoutez Ballet Pâtes saison 2, épisode 3, colonisation et sexualisation des corps.
Un podcast RFI.
Pour préparer ce podcast, j'ai lu des livres, des articles, parcouru des études. J'ai lu et relu des paragraphes, pris beaucoup de notes avant d'en effacer certaines, puis de les reprendre. J'ai regardé des documentaires et j'ai aussi écouté d'autres podcasts. Et je dois vous dire qu'avec tout ça, j'en ai beaucoup appris sur les hommes noirs, sur leur rapport aux autres hommes, leurs émotions, les carapaces qu'ils se sont fabriquées pour se protéger ou pour répondre aux normes de la société. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment l'homme noir a été façonné par les traumatismes du passé liés à la colonisation et à l'esclavage. De manière générale, on a tendance à dire qu'il y a un caractère universel chez les hommes. Ils n'aiment pas montrer leur vulnérabilité. Mais concernant les hommes noirs, il faut y ajouter une spécificité. Les blessures historiques qui ont aussi laissé des stigmates psychologiques, mais aussi physiques. Écoutez à ce sujet le sociologue et écrivain sénégalais El Gass.
C'est une question de contre-violence. C'est-à-dire, quand le corps a été aussi humilié, le corps a servi toutes les pratiques pseudo-scientifiques les plus colonialistes et les plus racistes. Quand le corps a été soumis justement aux violences de l'esclavage, à l'expérience des cales, quand le corps a été exposé, je veux dire, quand dans les eaux humaines, quand le corps a été mutilé. Et là, pour le coup, il y a une littérature post-coloniale très abondante sur ces humiliations-là, sur ces blessures-là. Oui, il y a l'intégration du stigmate, parfois. Et l'intégration du stigmate qui peut même aller jusqu'à la revendication de ces stigmates comme une certaine forme de force. Et on est là dans une forme de perversion de l'histoire, mais parce que toute violence engendre une forme de contre-violence. Et on se construit avec ces identités qu'on projette vers nous et on les prend, on dit parfois « Ok, vous voulez en quelque sorte nous exclure de l'humanité avec ça, on va porter cet habit-là et en faire parfois une force ». Et ça, c'est une logique historique assez implacable qui n'est pas uniquement à situer chez les populations noires spoliées, mais c'est quelque chose qui existe. Et ce corps bestial-là, on parle de l'histoire, on parle aussi du présent, on parle de la pornographie, on parle des rapports affectifs, on parle justement de cette sensualisation à outrance, que ce soit des hommes noirs ou des femmes noires, ces fétichisations d'une certaine mesure, mais dans laquelle aussi prennent source d'une certaine manière, toute une forme de fierté revendiquée, de virilité, de force, ainsi de suite. Et donc, on est toujours dans ce tropisme-là de la réaction vis-à-vis d'un ordre qui a dévié notre humanité naturelle d'une certaine mesure. Et donc, pouvoir assumer ce qu'on peut avoir d'universel, d'infiniment sain, que l'on peut retrouver chez tous les mâles, en fait, c'est aussi l'ambition de Mâle Noir. C'est d'expliquer que, c'est ce que je disais par rapport au titre, le mâle noir est connoté, mais l'homme noir ne l'est pas. L'homme noir est infiniment comme tous les autres hommes. Et donc, c'est une manière d'ailleurs de réhabiliter une notion qui a été souillée par des interprétations de l'histoire qui s'appelle l'universel.
Les racines de la masculinité de l'homme noir africain sont donc profondément ancrées dans la colonisation. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les sciences naturelles et la médecine des pays colonisateurs ont largement contribué à la sexualisation du corps des personnes noires. Dans l'imaginaire colonial, les Africains étaient déterminés par des stéréotypes construits dans l'imaginaire européen. En témoignent les os humains lors des expositions coloniales internationales entre 1889 et 1931 en France et dans d'autres pays européens. Les Noirs étaient représentés notamment comme ayant une sexualité débridée, pratiquant le fétichisme et le cannibalisme. Dans mes recherches, je suis tombée sur les travaux de Mara Viveros Vigoya, notamment son livre intitulé « Les couleurs de la masculinité ». Cette universitaire colombienne et professeure en études de genre à l'Université nationale de Colombie analyse la construction des identités masculines en Amérique latine. Et finalement, son analyse a un caractère universel tant l'histoire des Noirs en Amérique latine résonne avec celle de l'esclavage et de la colonisation du continent africain. Cette colonisation a créé de part et d'autre une masculinité hégémonique qui classe les hommes en fonction de leur race, de leur classe sociale et de leur sexualité. Je vais vous lire ce qu'écrit Maya Viveros Vigoya à ce propos. L'homme noir est représenté comme primitif, docile et affable parce qu'il ne constitue pas une menace pour la masculinité hégémonique occidentale, puissante, autoritaire, pleine d'initiative, ou au contraire, comme brutal et sexuellement insatiable par opposition à l'homme blanc, décrit comme un homme civilisé et protecteur. En bref, dans les sociétés coloniales et post-coloniales structurées par le racisme, un homme n'est viril que dans la mesure où cela peut être utile aux intérêts de la masculinité hégémonique des classes dominantes. Fin de citation. Vous l'aurez compris, le corps de l'homme noir a servi à le déprécier ou à le valoriser selon les intérêts coloniaux. Alors, comment les anciennes puissances coloniales se sont servies de leur théorie sur le corps noir pour justifier la colonisation ? J'ai posé la question à Delphine Peretti-Courtis, enseignante en histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille et membre du laboratoire TELEM. Elle a écrit l'ouvrage « Corps noir, médecin blanc, la fabrique du préjugé racial ».
Alors là, c'est très intéressant parce que on voit vraiment le transfert de savoir entre ce savoir scientifique qui au départ se situe vraiment au niveau des élites scientifiques médicales, se transfère vers les élites politiques et ensuite vers la population, vers les savoirs communs, les savoirs populaires. Et je prends souvent un exemple très parlant du discours de Jules Ferry en 1885 à la Chambre des députés où il affirme que les races supérieures, je le cite, ont un droit et un devoir vis-à-vis des races inférieures. Et ce devoir est notamment, je le cite, de les civiliser. Donc il reprend cette théorie des races supérieures et inférieures, et il justifie ici la colonisation. Et justement, il s'appuie, en parlant de races, hein, sur ces théories sur les crânes, ces théories sur les corps, développées notamment par Georges Cuvier, par Paul Broca, par des médecins très renommés à l'époque. Hein. Ce n'était pas une pseudo-science, c'était une véritable science, enfin, considérée comme telle en tout cas, et reçue comme telle. Donc on a ce passage de la sphère scientifique à la sphère politique, puis ensuite, les politiques, pour justifier la colonisation, vont mettre en place des expositions coloniales, et diffusé par différents canaux ces stéréotypes qui tendent à inférioriser, à présenter également les populations africaines comme étant sauvages, primitives et acivilisées. Et c'est ainsi qu'on a une forme de, au-delà de l'effémination de l'homme africain, c'est une infantilisation générale aussi que l'on peut retrouver dans les propos et dans les représentations. Effémination, infantilisation, mais aussi animalisation. Ce sont des catégories de pensée très fortes qui sont véhiculées et qui contribuent à placer l'homme, mais aussi la femme, d'ailleurs, noire d'Afrique subsaharienne, au plus bas de l'échelle humaine, dans la pensée scientifique, puis ensuite politique et populaire de l'époque.
La masculinité et la virilité de l'homme noir, au-delà du fait qu'il a été déprécié, à un moment donné, c'était le contraire. Il a été aussi utilisé pour servir, si je peux dire, le pays colonisateur.
Tout à fait, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que dans les discours médicaux, il y a aussi une forme de volonté, alors peut-être inconsciente, mais de finalement d'aller rechercher ce qu'ils veulent prouver. Ils vont chercher dans les corps le résultat de leur propre hypothèse, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle les populations africaines, par exemple, seraient inférieures, on va rechercher les marques de la féminité, les marques de l'animal, les marques de l'enfant sur les corps. Mais lorsque l'on cherche au contraire à voir dans quelle mesure ces corps peuvent servir le projet colonial, on va rechercher la marque de la force, de la robustesse. Et ça, c'est un préjugé qui date de l'esclavage, qui, pendant une partie du 19e siècle, coexiste en fait avec l'idée de féminité de l'homme noir, mais on considère qu'il y a une forme de robustesse aussi qui peut servir le projet colonial, et notamment en tant que main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on considère que l'homme noir est acclimaté, qu'il résiste à des maladies endémiques mortifères et qu'il est aussi plus robuste dans son corps, donc il peut servir le projet colonial. Face à cela, on considère que les corps blancs, eux, sont affaiblis par les maladies tropicales. Donc il y a cette idée de servir le projet colonial en tant que main-d'œuvre, mais aussi en tant que soldat. Et c'est l'invention de la force noire, c'est à mettre entre guillemets. C'est une œuvre d'un militaire, le général Mangin. Et les médecins coloniaux contribuent aussi à définir, à décrire cette prétendue force noire qui serait naturelle, pour expliquer que les hommes noirs seraient de bons soldats pouvant servir dans les guerres coloniales, mais également européennes, de bons tirailleurs pouvant servir donc la France. Et là, donc, c'est tout un nouveau stéréotype, un nouveau modèle de pensée qui apparaît, celui d'une force naturelle.
Quand le lieutenant-colonel Charles Mangin de la France coloniale appelle à la création d'une force noire dans son ouvrage du même nom en 1910, son but est de mettre à contribution les colonies africaines en cas de conflit européen. Car il craint le déclin de ce qu'il appelle la race française qui aurait besoin d'être régénérée. La solution qu'il a trouvée, c'est de faire appel à d'autres peuples qui constitueront la chair à canon sur les terrains de guerre occidentaux. Vous vous souvenez des Africains qui ont combattu pour la France et qu'on appelle les tirailleurs sénégalais ? Eh bien, c'est d'eux dont il s'agit. L'idée était donc de faire appel à cette force noire, gratuite, vantée avec des stéréotypes bien ancrés dans l'imaginaire collectif, soutenant que les Noirs seraient plus résistants et auraient l'âme guerrière et le sens du respect de la hiérarchie. Dans son article « Race guerrière et masculinité en contexte colonial », Vincent Joly explique la notion des races guerrières théorisée par les colons britanniques qui croyaient en l'existence de peuples biologiquement et culturellement prédisposés aux arts de la guerre. Ainsi écrit-il, à la veille des deux guerres mondiales, à un moment où la France est en proie au doute et où l'idéal masculin doit être mobilisé devant la menace qui pèse sur la nation, la figure du soldat des colonies s'impose comme une image masculine à la fois rassurante et protectrice. Fin de citation. C'est ainsi que plus de 300 000 Africains, ceux qu'on estimait être de la race inférieure, sont mobilisés pendant les deux guerres mondiales pour aider la France. L'homme noir, auparavant considéré comme vaincu, ayant perdu sa virilité car colonisé, retrouvait subitement comme par magie cette virilité masculine dans son rôle du soldat sauveur. Pour l'écrivaine franco-camerounaise Leonora Miano, ce jeu de domination qui continue encore de nos jours a aussi donné naissance à certains types de violences auxquelles les hommes noirs font face depuis longtemps, principalement les violences policières en France et aux États-Unis. En fin de compte, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, au-delà de la domination, est aussi l'histoire de la sexualité des personnes noires, particulièrement celle des hommes.
C'est au départ une scène banale que décrit la victime dans cet enregistrement audio diffusé par nos confrères de BFM TV. Il est 21h jeudi soir, Théo dit s'être retrouvé par hasard au milieu d'un contrôle d'identité. Un policier s'approche, très vite, les choses dégénèrent.
Dès que j'ai vu son ton et sa façon de parler, j'ai dit ah, « là, c'est pas là pour rigoler ». Donc je suis passé contre le mur tranquillement. Et là, des policiers, ils viennent, ils me mettent un coup. Et là, je savais très bien dans le coin où on était, il n'y avait pas de caméra. J'ai dit « alors là, il faut que je me débatte ». Le mieux que je peux pour que j'aille devant les caméras.
Le 2 février 2017, Théo Louaka, 22 ans, est agressé sexuellement par des policiers au cours d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Cette affaire, précédée d'autres cas de violences policières sur des hommes noirs en France, est à l'origine de l'ouvrage collectif Marianne et le garçon noir, sous la direction de Leonora Miano. Plusieurs hommes noirs racontent leur vécu au pays des droits de l'homme. La violence qu'a subie Théo Louaka, à savoir l'introduction par un policier d'un bâton télescopique dans son corps, lui laissant des séquelles physiques et psychologiques, est analysée par Leonora Miano comme une certaine volonté de déposséder l'homme noir de sa masculinité, l'humilier, que son corps ne lui appartienne plus. Pour l'écrivaine, cet acte n'est pas anodin, puisqu'il dévoile aussi un certain complexe chez les agresseurs. La pénétration opère à la fois comme prise par effraction et comme appropriation du corps, révélant dans le fond une pathologie chez l'assaillant du rapport à soi-même, écrit-elle. Un avis partagé par la féministe et historienne américaine Linda Gordon dans le documentaire Ku Klux Klan, une histoire américaine. Un film qui retrace l'histoire et l'évolution de cette organisation terroriste, suprémaciste blanche et la terreur qu'elle a fait subir aux Noirs au temps fort de la ségrégation raciale aux États-Unis. Même si je trouve que les mots de Linda Gordon peuvent heurter la sensibilité, pour moi, il est important de les entendre. Elle affirme « Très souvent, des sévices étaient infligés au corps de la personne lynchée. Pour parler crûment, ils adoraient couper le pénis de la victime et le lui mettre dans la bouche. » Il y avait un sous-texte tellement sexuel que ça évoque forcément une espèce d'angoisse des Blancs vis-à-vis de la sexualité des Noirs. Fin de citation. Le corps des hommes noirs a longtemps été considéré comme violent et bestial, enfermé dans des caricatures. Cette image négative a énormément contribué à pousser ces derniers à effacer une partie de leur masculinité. Car comme l'a dit le réalisateur Barry Jenkins dans un article de l'écrivaine française Isabelle Bonny-Clavry, la masculinité noire, lorsqu'elle s'autorise à se montrer dans son intégralité, est vue comme une menace. Alors, on reste dans le déni pour se conformer et ne pas se faire remarquer. On se fait détruire par le système. Entendez par là les violences policières commises la plupart du temps par des hommes blancs. L'écrivain américain James Baldwin avait certainement vu juste quand il écrivait ceci dans No Name in the Street. Que des hommes éprouvent l'impérieuse nécessité d'avilir d'autres tout simplement parce que ces derniers sont aussi des hommes est une vérité que l'histoire nous interdit d'examiner. Il est absolument certain que les hommes blancs qui ont inventé la grosse queue noire du négro restent tourmentés par ce cauchemar et sont encore pour la plupart d'entre eux condamnés à tenter de s'approprier cette queue d'une manière ou d'une autre. Citation traduite par Leonora Miano dans Marianne et le garçon noir. Je ne vais pas m'étaler sur cette thématique car ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais je ne saurais évoquer ce sujet sans mentionner les États-Unis où statistiquement les personnes noires, surtout les hommes, ont près de 3 fois plus de chances, disons de malchance, d'être tués par la police. En 2022, sur 1238 personnes tuées par la police américaine, 276 étaient des noirs selon Mapping Police Violence, un groupe de recherche spécialisé qui comptabilise les décès signalés aux mains des forces de l'ordre. C'est naturellement un sujet dont les réalisateurs afro-américains se sont parfois emparés dans leurs films. Pour beaucoup d'observateurs, notamment la réalisatrice et écrivaine française Isabelle Bonny-Clavry, le film qui a donné plus de place au corps de l'homme noir ces dernières années, tout en mettant au centre de l'histoire les violences policières, c'est Sybil Street pouvait parler de Barry Jenkins. Au-delà du sujet principal qui est le racisme et les violences policières, le réalisateur montre une masculinité de l'homme noir comme on en voit rarement au cinéma. Pour Isabelle Bonny-Clavry, dans ce film, Barry Jenkins donne à voir une autre facette des hommes noirs, loin des clichés habituels de l'homme violent et dealer de drogue. Des hommes sensibles, voire romantiques, virils certes, mais d'une virilité douce et surtout, des hommes qui osent se montrer dans leur vulnérabilité, conclut-elle. Dans le prochain épisode, nous parlerons des hommes qui fuient leurs responsabilités et crient à l'émasculation dès qu'une femme affirme son pouvoir. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Vous avez aimé cet épisode? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt!